Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
Hey, salut Richard.
Attends, comment ça va?
Ça va bien. T'as regardé ce débat hier soir, ça t'a rassuré?
Écoute, j'ai toujours trouvé que les gens exagéraient sur Trump. Tu sais, le Trumpisme primaire, l'anti-Trumpisme primaire m'a toujours tapé ses nerfs lorsqu'on parlait d'un dictateur, d'un homme qui n'aimait pas la démocratie, de menaces de guerre civile. Tu sais, je trouvais toujours que les gens exagéraient, mais pas hier. Là, ça me fait vraiment freaker. Je veux dire, tu sais, qu'ils disent à une gang d'extrémistes, de suprémacistes blancs armés jusqu'aux dents, prenez un pas de recul, mais allez-vous-en pas trop loin, là, tu sais.
Restez prêts,
parce qu'on va peut-être avoir besoin de vous. Je trouve ça hallucinant qu'il est incapable de condamner des gens comme ça, dangereux, et qu'il dise
incapable
que...
de s'engager à respecter le résultat de l'élection
aussi.
Mais c'est
clair et net que s'il gagne, la démocratie fonctionne, puis c'est une élection qui est parfaite, mais s'il gagne pas, c'est un coup d'État. Il y a eu une fraude, il y a eu une arnaque, il ne partira pas, et là, il va faire appel à ses troupes, justement, qui sont prêtes à le suivre, d'ailleurs, qui ont mis sur leur site Internet, c'est devenu leur slogan maintenant, là.
Stand back and stand by.
Ça, exactement. Écoute, c'est vraiment fréquent. Et vraiment, le 4 novembre, moi, j'ai peur, écoute, à des émeutes, à du pillage, à des gens armés complètement fous. Ces gens-là n'accepteront pas que Trump perde ses élections. Ils vont dire que c'est un coup d'État contre leur président. Et là, je commence vraiment à fréquer. Écoute, là, on sait qu'ils ont des émules ici au Québec, au Canada. Toute la gang d'anti-masques, c'est une gang de super trumpistes au bout. Écoute, j'ai rien qu'écrit une petite affaire de critique hier avant de me coucher sur Trump en disant qu'il arrêtait pas d'interrompre, qu'il était incapable d'écoute et tout. Je me suis fait, mais... engueuler, mais pas rien qu'engueuler, menacer des commentaires haineux, extrêmement agressifs. Ces gens-là me font freaker, Mario. Complètement.
Oui, tu sais, les thèses que ces gens-là, puis Vincent est plus spécialiste que moi là-dedans, il va compléter, mais tu sais, durant tout le mandat de Trump, là, ceux qui croient au complot, mais ceux qui déifient Trump, là, c'est pas ordinaire, là. Ils ont espéré durant tout son mandat, tu sais, le complot mondial, là. Les
oui.
démocrates, certaines, il est supposé le révéler, hein.
Oui.
Tu sais qu'à plusieurs moments là, il disait c'est là, c'est la semaine prochaine, Trump il va le dire, là. Mais tu sais, il va dire quoi? C'est comme rien, c'est une connerie.
Mais d'ailleurs, c'est quoi le
mais
terme?
Il va le sortir, Trump. Là.
Mais c'est quoi? Oui, we're gonna drain the swamp.
Mais c'est parce que, mais ça, Mario, quand il le fait pas, parce que souvent il y a des dates, là, l'espèce de mystérieux compte de QAnon qui dit, ben là, c'est demain, là, l'arrestation massive de Hillary Clinton, puis Céline Dion, puis toutes les pédos satanistes du monde. Mais là, quand ça a pas lieu, là, on dit que, c'est Trump, on leur a mis des bracelets électroniques, là. Tu sais, on disait ça de François Legault quand il était en vacances, qu'on le voyait plus parce qu'il avait été arrêté par Donald Trump là en résidence en raison de son penchant pédo-sataniste, puis qu'il y avait un truc à la cheville. Alors tu peux toujours inventer une nouvelle affaire pour qui fait que Trump est ben bon là.
Non, puis il y a quelque chose de religieux là-dedans. C'est un mouvement à la limite religieux. Puis regarde, c'est pas pour rien.
C'est une secte.
Mais c'est totalement sectaire. C'est pas pour rien que le mouvement anti-masque, qui est très près de Trump ici au Québec, il va avoir 4 pasteurs là à la prochaine grosse marche. Pas celle de ce soir là, mais celle qu'on avait prévue pour un petit peu plus tard au mois d'octobre. Il y a une alliance entre la droite et la droite chrétienne. Et il y a quelque chose de religieux. Et là, je vais pas prononcer le mot de Hitler, parce que faire un parallèle entre Hitler et Trump, je trouve ça tout le temps extrêmement douteux. Mais tu sais, les marches au flambeau au début à Nuremberg, puis il y avait un côté très charismatique, mystique quasiment, chez les Allemands face à leur dictateur. Il y a quelque chose chez ces gens-là. On est au-delà de la rationalité. On n'est pas dans la logique, là. Et c'est ça qui me fait totalement freaker. Ajoute à ça qu'ils vont être furieux de pas gagner leurs élections. Ajoute à ça, comme Vincent le fait, le souligne souvent, qu'ils sont armés jusqu'aux dents, c'est fréquent.
Et histoire qui a ébranlé beaucoup de Québécois, Richard, le décès de Joyce Etchakwan, que tu compares au dossier de George Floyd aux États-Unis?
Oui, oui, exactement. J'imagine qu'on va avoir, là, tout comme aux États-Unis, là, on réfléchit là, à revoir totalement là, les relations entre les Blancs et les Noirs. Ici, là, je pense qu'on est dû là, pour une réflexion en profondeur. Il y en a eu des commissions et tout ça, mais il faut revoir la place qu'on donne aux Amérindiens, aux Autochtones, dans notre société, et puis la fameuse loi des Indiens. Mais tu sais, je vais te dire, d'un point de vue strictement personnel, OK? Et quand on est dans les médias, puis on a un micro, on a toujours tendance à se peindre d'un bon angle, d'un bon côté, mais tu sais, les gens des médias, on est comme tout le monde, on a nos préjugés aussi. Souvent, je pense, ben tous les jours, je pense en auto sur Duparc. OK, et au coin de Duparc et Sherbrooke, ceux qui connaissent bien le centre-ville et qui passent par là, il y a à peu près une quinzaine d'Autochtones qui sont tout le temps sous, sans abri, qui dorment devant les devantures de commerce, qui traversent la rue, puis t'as toujours peur d'y frapper, qui se foutent totalement d'où c'est que t'es, ils sont complètement off, et souvent ça m'agace, je passe par là et ça m'agace, et je les regarde, puis je dis, encore eux autres, ils ont encore dormi devant un restaurant, puis ils sont encore là en train de quitter pour boire, puis tout ça, et tu sais, ton préjugé monte, mais ces gens-là sont en détresse, ils ont été déculturés, là. Ils ont été arrachés de leur terre, là.
Souvent, ceux qui arrivent à Montréal, là, c'est dans un long processus de déconstruction personnelle. Là,
ben, totalement. Ben, tu sais, puis je reviens à cette phrase-là de Pierre Falardeau qui avait dit, à tout le monde en parle, un peuple qui meurt, ça meurt longtemps, puis ça fait mal. Ben, ça, c'est un peuple qui se meurt, qu'on a arraché de ses habitudes, arraché de ses traditions, arraché de son folklore, qui arrive en ville. Ils sont déconnectés de tout, et c'est certains qui tombent en boisson et tout ça. Donc, ton premier réflexe quand tu penses ça tous les jours, c'est de dire, encore, ils sont encore sous, puis tout. Puis peut-être qu'à l'hôpital, c'est ce qu'ils se disaient en voyant cette femme-là. Tiens, attends encore, elle revient encore ici, là. Puis tiens, un septième enfant, là, qu'elle a accouché, tout ça. Mais faut aller au-delà de ces préjugés-là, là. C'est des gens qui sont en profonde détresse.
Mais dans le rapport, Paul-Émile Ottawa, là, le chef de la Nation Atikamekw de Manawan, me disait ce matin que dans le rapport vient, honnêtement, là, que j'avais survolé, mais il y avait comme, pas nécessairement dans les conclusions, dans mais plus dans l'analyse qu'ils ont faite, ils s'étaient penchés sur l'hôpital de Joliette. Il semble que l'hôpital de Joliette avait fait l'objet spécifique de témoignages, de déclarations de problèmes, etc.
Est-ce que toi, ça veut dire, ça justifie un congédiement, un renvoi de la ministre des Affaires autochtones?
Ça, honnêtement, ça n'a aucun rapport. Là. Dans ce sens que...
Comme le demande Dominique Anglade, je trouve que...
Non, mais d'ailleurs, les libéraux n'ont même pas... À la période des questions, je pensais... J'étais prêt, moi, à LCN, à présenter ça en direct. Je me disais une demande de démission de ministre. Puis les libéraux l'ont même pas répété en chambre. Là. Mais ceci dit, je te dis pas que c'est une ministre efficace. Je te dis pas que c'est une bonne ministre. Mais s'il devait avoir un remaniement, peut-être qu'elle y passerait. Mais de la faire payer, elle... Parce qu'il y a une infirmière raciste à Joliette. Je veux dire, le problème là, du racisme chez les Autochtones existe depuis des décennies. Tu sais, c'est toujours la notion de responsabilité ministérielle. Là. Est-ce qu'elle a pris, elle, une décision? Est-ce qu'elle a fait une réforme qui a changé? Non. Tu sais, je veux dire, ça serait d'une injustice totale de lui faire porter ça à elle.
Mais surtout Justin Trudeau aussi. Justin Trudeau qui a mis la barre très, très haut auprès des Premières Nations en disant, moi, je vais changer les affaires. Moi, je suis votre homme là-bas. Ça sera plus jamais pareil. Mais il y a encore un climat, il faut le dire, un climat d'apartheid littéralement qui existe. C'est le tiers-monde au sein même du Canada. C'est incroyable.
Richard, tu t'es penché sur le dossier de notre bureau d'enquête le CHUM.
J'adore quand on me prend pour un cave. J'adore ça. Je trouve ça tellement drôle. Écoute, quand tu donnes un contrat, tu accordes un contrat, tu es un organisme comme le CHUM. Si c'est $1 million et plus la valeur du contrat que tu accordes, ben, tu dois rendre des comptes, etc. Il y a due diligence. Tu dois passer en appel d'offres, une procédure. Là, alors, le CA, le CHUM, accorder un contrat à une entreprise qui était dirigée par une de ses administratrices, quand même, faut le faire, une personne qui siège sur le CA du CHUM, et ce contrôle est de $999,999. Écoute, moi, je pense, tu sais, j'y vois en train, ça va être bon, Oui, une pièce de moins. Ouh, ça va être bon, puis ça sera pas, là. Puis tu sais, ça va passer ben là, comme
il,
du beurre dans
pas,
le point.
Je veux pas te décevoir, là. Richard, mais ils viennent pas d'inventer ça, là. Dans les crédits du gouvernement du Québec, quand j'étais nouveau député en 1994, je m'étais surpris de voir dans les crédits, puis c'était beaucoup plus petit, là. Mais tu sais, il y avait une règle, je me souviens plus c'était quoi qu'il fallait que tu fasses à partir de 25 000. Puis dans les crédits du gouvernement, t'avais plein de contrats octroyés des firmes de communication. 24 999, 24 950, 24...
C'est niaiseux, tu sais.
Parce qu'à partir de 25 000, là, tu sais, t'avais des règles supplémentaires à respecter. Fait que t'avais plein d'attributions de fonds. C'était quand même public. Il fallait quand même qu'il les publie dans les livres à la fin de l'année, dans les dépenses du gouvernement, dans le livre des crédits, avec le bénéficiaire qui a reçu le contrat. Donc, il y avait quand même une transparence. Mais t'avais plein de contrats, tu regardais ça, t'avais plein de 24 900 quelque chose.
Et là, écoute, donc, le CA qui donne ça, là,
il j'avoue
qui
donne, que qui donne 999 999, ouais, là, on s'est forcé.
Au moins, c'est millions. Pas 99 sous après ça. Au moins, c'est pas 99 sous après ça, au moins.
Ils se sont limités. Hey, merci, Richard, oui, demain.
Bon, on écoute le point de presse tantôt. Salut, Ben.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut s'en aller à la pause. Le but, c'est d'être revenu pour 17 heures, je vous le rappelle. Point de presse de M. Legault. Il sera avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. Le sujet du jour, comment la police, comment la justice va punir ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires.